Tueur d'âne à coups de bonnet. Vendée. La carrière avortée de tueur d'âne à coups de bonnet que voulut exercer Jean Martineau, ex-employé d'écarissage, voulant devenir artiste de foire, n'aurait été due qu'à une confusion entre une expression du sud de la France et une autre vendéenne. On ne rappelle jamais que le baby-boom humain, lié à la fin de la Seconde Guerre mondiale, s'est accompagné en région Poitou, soit les Deux-Sèvres, la Vendée, la Vienne, une partie de la Charente et de la Haute-Vienne, d'un mullet-boom, soit une explosion démographique de la population d'ânes et de mulets utilisés dans l'agriculture et le bâtiment lors de la reconstruction du pays. C'est d'ailleurs la dernière époque lors de laquelle le baudet du Poitou, reproducteur des races mulassières qui fit la fortune au XIXe siècle de bien des éleveurs, est exploité dans sa région d'origine, avant de faillir disparaître et d'être sauvé in extremis dans les années 80. Conséquemment, dans les années 60, alors que la France s'est relevée du conflit et que la mécanisation de l'agriculture et des tâches de construction et de transport de matériaux sont enfin efficientes, le surcroît de population des bêtes commence à poser problème. Elles sont devenues inutiles et sont par ailleurs prématurément usées. Alors qu'une mule ou un mulet peut vivre jusqu'à 25 ans, on estime en 1959 à plus de 125 000 le nombre de bêtes âgées de 15 ans déjà trop fatiguées pour être utilisables. Un plan national de collecte et d'abattage des animaux est voté début 1960. Un marché public d'écarissage est lancé, alors remporté par l'entreprise Michel Chauvet Écarissage, sise à 3 km au sud de Mouilleron-le-Captif, en Vendée. Des théories de camions y apportent peu après quotidiennement des dizaines de mulets Kakochim qui sont euthanasiés, en compagnie parfois de baudets du Poitou reproducteurs, lessivés par les cadences infernales, et sont ensemble retraités en farine animale, dont certaines d'ailleurs sont ajoutées au ciment. Or, c'est dans cette entreprise que travaille le fameux Mouilleronnais Jean Martineau. De cet homme, son instituteur disait « Lorsque vous dialoguez avec lui lorsqu'il était enfant, c'était un peu comme si vous essayiez de courir avec de l'eau jusqu'en haut des cuisses. Vous poussiez, mais ça n'avançait pas comme vous vouliez. Je l'appelais la litote, car on ne pouvait jamais parler de lui en affirmant directement les faits. Par exemple, au lieu de dire « il a compris », on avait tous le réflexe de dire poliment « il n'est pas encore au maximum de sa compréhension. Et fallait voir, têtu comme la mule du pape. Comme on dit ici, il ne parlait ni d'eau de chou, ni de la tête, avec sa boule d'empeigne. Élevé par sa mère, veuve de guerre qui décède quelques années après la libération, pupille de la nation, le petit Jean Martineau est élevé dans une famille d'accueil. Plus tard, l'individu est connu de tous dans Mouilleron, même si la ville connaît dans les années 60 le début d'un triplement de sa population. Sorte de curiosité locale qui crotte menu, vit de peu, toujours à traîner dans les rues rond comme un pinon, vivant d'allocations et de petits boulots occasionnels ou cherchant son pain, mendiant, il fait partie du paysage. L'aurait perdu bé ses oreilles si elles n'étaient pas attachées. Emprunté comme une poule qui trouve un couté, l'avait les coutants longs, était tôt crassou et vilain comme cette choux. Estimait le maire à l'époque. Jean Martineau est en effet un individu particulier, d'une intelligence qui ne semble pas donner tout son potentiel, d'une stature impressionnante de colosse, avec une petite tête, les yeux minces et très écartés, il a l'aspect d'un guerrier asiatique. À Mouilleron-le-Captif, on le surnommait d'ailleurs Gengis, mais on ne saura jamais quand. Là qu'un de ses jeunes administrés soit la risée du village et qu'il envoie, quoique souple comme la bourrique d'eau au diable, en arrêt maladie les meilleurs ouvriers l'ayant défié au bras de fer au café des sports, le maire lui trouve du travail dans l'entreprise d'équerrissage qui embauche à l'occasion du plan d'abattage des mules. Tout gosse, il jouait à David Croquette avec des rats morts. Je me suis donc dit que ça lui plairait. Et je crois qu'il s'amusait bien à achever des bêtes d'un seul coup de poing puisqu'il était fort comme une charrette. Eh bien gagné. Il a arrêté de bailler au four, s'est remué le tchu et s'est mis à travailler. Pas trop quand même, mais un peu. juillet 1960, le célèbre cirque néerlandais Tony Boltini, en tournée en France, plante son immense chapiteau de 7000 places à La Roche-sur-Yon. Jean Martineau s'y rend plusieurs fois, fasciné par les numéros d'athlètes en roulotte disposés devant le cirque. Il parvient à s'entretenir avec Battistu Gelormina, un athlète corse qui tord des rails de chemin de fer en souriant, et lui demande s'il ne pourrait pas se faire embaucher, afin lui aussi de créer un numéro. Le Corse, en apprenant, après plusieurs minutes d'attente de la réponse, que Martineau travaille chez un équarisseur d'âne, lui aurait dit, incompréhensif, « Oh toi, tu m'as l'air d'être un sacré numéro, du genre en effet à tuer les ânes à coups de figue molle. » L'expression du Sud va marquer à jamais Martineau qui n'a pas tout compris. D'autant que les Mouilleronnais lui serinaient depuis toujours l'expression vendéenne « Qu'est-ce que tu bouines? Tu tues le temps à un coup de bonnet ?» Trop d'informations se bousculent dans la tête de Martineau, que d'aucuns jugeaient d'ailleurs trop serré par le bonnet. Et il se persuade que tuer les ânes à coups de bonnet est sa destinée. Il décide de créer une attraction, envisageant de se faire embaucher par la suite par des forains. Michel Chauvet, son patron, voit alors avec surprise son jeune employé rester le soir pour s'avancer dans le travail. « Ça m'a coupé le suble. Je me suis dit que ça durerait pas autant que les foires de Montaigu. » En fait, Martineau sélectionne un bonnet du Poitou parmi les plus fragiles et tente de l'assommer à coups de bonnet. Les premiers essais s'avèrent décevants. D'abord, le bonnet réagit peu, sinon pas du tout, et le bonnet bouloche en un premier temps, puis se détricote au contact du crin entre les oreilles. Au bout de quelques heures, l'âne finit même par s'endormir. Martineau le finit en glissant son poing dans le bonnet et en lui administrant classiquement un bon coup sur le crâne. Quoique parvenu à ses fins, il sent bien que sa technique n'est pas aboutie, et qu'en cas de spectacle, le public toujours très exigeant pourrait trouver à y redire. Le lendemain, il essaie une nouvelle fois avec une très vieille mule, mais en vain encore. On l'a vu tourner en rond, blanc comme sa chemise. On sentait bien qu'il réfléchissait, car il avait les traits tirés comme une poule qui a mal au dessus quand l'œuf passe pas. Au bar, il restait dans son coin, gribouillait des dessins sur des papiers, témoigne le maire. S'il se remettait à parler, c'était pour affirmer, comme s'il n'avait pas d'auvent en ringue dans le derrière, qu'il partirait aux Amériques pour faire le phénomène chez Barnum, et qu'il reviendrait un jour tout riche pour nous fermer le bec. Et puis il s'est mis à porter un bonnet en côte de maille, d'un tel poids qu'il marchait penché.
Qui entend là qui jargote, il biserait sur les du jote, il s'ébenaise dans ma pia, mais tranquillement il retrempe dans le pia.
La première représentation a eu lieu le 7 avril 1961, place Napoléon à La Roche-sur-Yon, au pied de la statue. Avec l'aide d'un forain, présentateur d'une femme à barbe et producteur d'un spectacle de lancer de nains, il dispose d'une palissade pour accueillir le public payant un franc l'entrée. Des affiches placardées en ville ont vanté la venue de cette attraction unique au monde que les Américains nous envient. Une dizaine de curieux seulement assistent au premier abattage. Celui-ci a beau se dérouler sans incident, la mule est assommée d'un seul coup de bonnet de fer, les spectateurs manifestent leur déception. C'est trop bref. Et il n'y a guère de suspense, ni même de sang. Les deux représentations suivantes sont annulées par manque de spectateurs. Martineau en est déconfit, et pire, se prend le même jour une plainte de la Société protectrice des animaux qui recueille les deux bêtes survivantes. Un arrêt municipal est pris en urgence, interdisant à Martineau de se produire sur le territoire de la commune. Il renonce, écœuré. Son patron, Michel Chauvet, ne le verra pas le lendemain à son poste. « On n'a jamais su ce qu'il est devenu », témoigne-t-il une dizaine d'années plus tard pour la rédaction d'un ouvrage traitant de l'histoire insolite de l'Ouest. « Il a pris la mouche. J'ai entendu parler les années suivantes d'un type qui gagnait sa vie en arrêtant les tracteurs d'un coup de tête sur le capot. Peut-être a-t-il su s'adapter à l'évolution des techniques. Peut-être qu'il n'avait pas autant qu'on le pensait la tête près du bonnet. » Précision, aucun animal n'a été tué ou blessé pour la réalisation de cette chronique.
Mon âne a fais faire